De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, à condition d'être vacciné toutefois et d'avoir le budget. Les États-Unis rouvrent leurs portes aujourd'hui. New York attend les touristes de pied ferme après 20 mois en vase clos. Nous y serons dans un instant. À la une ce matin, il y a aussi le retour des masques à l'école dans 39 départements. Aux parents de faire subtilement passer la pilule. Et la troisième dose sera-t-elle obligatoire pour garder son pass sanitaire quand on est dans la cible? On sera sans doute fixé demain soir en écoutant Emmanuel Macron. De tout cela, il sera question, entre autres, avec votre invité Nicolas, il est candidat à la présidentielle.
Et secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord, Fabien Roussel, à notre micro avec Léa dans une grosse vingtaine de minutes. Vos questions dès maintenant, en revanche, au 01 45 24 7000.
Et un fauteuil pour 5 candidats. Premier débat LR ce soir avant le vote des adhérents début décembre. Dans ce journal aussi, les ravages du changement climatique sous la forme d'invasion de criquets. Nous serons au Somaliland, en Afrique de l'Est, avec des joueuses de rugby en grève à Bayonne et au théâtre devant la nouvelle pièce de Christophe Honoré à Lyon, qui est aussi une première sur les planches pour Chiara Mastroianni.
France Inter.
Alors qu'il est, certains sont dans l'avion. Et pour être aussi pressé, il faut de bonnes raisons. Se retrouver, se toucher après quasiment 2 ans d'attente. Les États-Unis rouvrent donc leurs frontières aujourd'hui aux voyageurs vaccinés d'une trentaine de pays. Soulagement pour les familles séparées, pour les compagnies aériennes et pour l'une des grandes villes du tourisme mondial. New York, nous voilà en attendant débarquer. Voici le reportage de Loïc Loury.
It's been 602 days since the Brits...
602 jours sans voir de touristes britanniques. À Times Square, le fameux Naked Cowboy en slip toute l'année dédie une chanson à leur retour et se réjouit, sarcastique, de voir enfin les frontières rouvrir. C'est vrai que je déteste compter mes dollars, mais bon, ça va aller. Il faut dire qu'avant la pandémie, 47 milliards de dollars étaient dépensés chaque année à New York par les touristes, dont la moitié par des étrangers. Leur absence a pesé lourd, explique John, manager du Carlton Arms Hotel à Manhattan, qui affiche désormais complet. On a toujours eu 80% de clientèle européenne, alors quand la pandémie a commencé, ça a été très dur. On est donc très content de voir les Européens revenir. Plus au sud, à Battery Park, Michael, en revanche, reste prudent. Sa troupe de danseurs de rue tourne au ralenti depuis 2 ans. Je ne crois pas à un retour à la normale tout de suite. Ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans. On peut attendre, on est patient. On fait ce qu'on aime, on danse, on divertit. Et son intuition, a priori, est correcte. Selon les prévisions de la ville, il pourrait s'écouler 4 ans avant que le tourisme new-yorkais ne retrouve ses niveaux d'avant la pandémie. New York, Loïc Loury, France Inter.
Il est 8h03 en France. Pas franchement festive cette rentrée des vacances de la Toussaint.
Et non, remettre le masque à l'école après avoir connu le bonheur de l'enlever. C'est comme ça et pas autrement dans 39 départements ce matin. Des Ardennes aux Pyrénées-Atlantiques, du Var à la Seine-et-Marne, le virus il circule plus fort et il faut s'adapter. Ce que les enfants sont parfaitement capables de faire, nous dit la pédopsychologue Anne Cietti, à condition que les parents y mettent du leur.
En fait, mettre ou enlever le masque, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les enfants aient pas l'impression que les adultes les font marcher, leur jouent des tours, leur font faire des choses auxquelles ils croient pas. Un enfant a besoin de sentir qu'on est franc avec lui. Si vous le vivez comme un manque de logique, une preuve de l'incohérence de la politique, alors c'est ce que l'enfant va ressentir. Et il aura du mal à accepter ces changements. Si vous le vivez comme quelque chose de logique, voilà, on a affaire à une épidémie qu'on n'a jamais vécue avant, on fait comme on peut avec cette épidémie, et que c'est tranquille pour vous, que c'est sans inquiétude, sans angoisse, il n'y a aucune raison pour que les enfants s'en portent plus mal. Ça peut même être intéressant pour les enfants de réaliser qu'ils ont un rôle à jouer dans ce qui se passe, ils ne sont pas impuissants, ça peut être gratifiant pour eux. Tout dépend de la façon dont on le leur dit.
On a conseil de bon sens recueilli par Alice Cachaner. Alors on remet les masques dans les cartables et on attend la parole du président. Tiens, ça faisait longtemps. Allocution sur le Covid demain soir à 20h. Il ne sera pas question que de cela. Mais sans doute faut-il donner une direction alors que les contaminations sont reparties à la hausse et que l'hiver arrive. Avec un enjeu majeur, c'est la troisième dose. Ce rappel destiné aux plus de 65 ans et au personnel soignant. Faut-il le rendre obligatoire pour conserver son pass sanitaire? Pour accélérer la campagne, en tout cas, on rouvre des centres de vaccination comme aujourd'hui à Breuillet, où tous les rendez-vous sont complets cette semaine. On est à 10 km de Royan, en Charente-Maritime, où Solène Gardré a tendu son micro au premier concerné.
Pour Annick, la question ne s'est même pas posée. Elle a pris son rendez-vous dès qu'elle a pu.
J'ai 85 ans depuis le 14 juillet. On est déjà vacciné contre une multitude de choses. Depuis Pasteur, les vaccins, c'est indispensable si on veut conserver une bonne santé.
Annie aussi va aller se faire vacciner, mais le choix était un peu plus compliqué.
Chez moi, le problème, c'est que j'en ai une moitié qui est vaccinée et une moitié qui le refuse, le vaccin. J'ai une fille, elle est infirmière. Elle a été une des premières vaccinées. Et l'autre qui se soigne par les médecines douces. Ses enfants ne sont pas vaccinés non plus. Alors c'est compliqué, hein ? Que faire ?
Richard, lui, refuse la troisième dose. Deux, c'était déjà bien assez.
Je me suis fait vacciner pour le pass. Sinon, j'ai une bonne défense immunitaire et je n'ai pas besoin.
À Breuillet, le nouveau centre s'apprête en tout cas à recevoir du monde. Danielle Carrère est la coordinatrice du lieu.
Aujourd'hui, tous nos créneaux sont pleins. On est un lieu de villégiature agréable et on a donc beaucoup de retraités. Donc oui, on a beaucoup de personnes de plus de 65 ans qui attendent leur troisième dose. Et là, on va arriver dans la période de décembre. C'est les gens qui auront eu leur deuxième dose en juin. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. On va avoir beaucoup, beaucoup de troisième dose.
Le centre doit ouvrir jusqu'à fin décembre. Mais face à la demande, Danielle Carrère prévoit déjà une prolongation, au moins jusqu'en février.
Solène Gardré, France Bleu, La Rochelle. Et le vaccin est toujours d'actualité. Les prêts garantis par l'État aussi. Dispositif prolongé de 6 mois jusqu'à fin 2022, annonce Bruno Le Maire dans le Figaro ce matin. Un policier du commissariat de Cannes, légèrement blessé à l'arme blanche tôt ce matin, c'est son gilet pare-balles qui l'a sauvé alors qu'il se trouvait dans une voiture stationnée devant le commissariat. L'agresseur s'est approché et a tenté de le transpercer avec un couteau. Un des collègues du policier a tiré sur l'agresseur qui est grièvement blessé. Le ministre de l'Intérieur, qui a commencé par donner l'information il y a quelques minutes, indique qu'il se rend sur place immédiatement. Tous différents, mais pas trop quand même. Ce sera le principe ce soir du premier débat des candidats à l'investiture de la droite LR à la présidentielle. Pécresse, Barnier, Bertrand, Juvin, Ciotti, réunis sur LCI sur la route du Congrès qui devra n'en désigner qu'un le 4 décembre. D'ici là, et dès ce soir, Anne Souhaitemont, ils devront se démarquer sans se diviser.
Fini les petites phrases, ne vous attendez pas à des pics sur le casier judiciaire de l'un ou de l'autre, on ne refera pas les débats de 2016. De l'entourage de Xavier Bertrand à celui de Valérie Pécresse, en passant par l'équipe de Michel Barnier, ils sont tous d'accord ce soir, tout sauf la bagarre. Le souvenir des échanges sanglants d'il y a 5 ans est encore dans toutes les mémoires à droite. Pendant 2 heures, les 5 candidats vont donc dérouler leurs propositions, pouvoir d'achat, immigration, sécurité internationale, avec beaucoup de convergences, la nécessité de mettre un frein à l'immigration légale, de renforcer l'application des peines et quelques différences sur la baisse du nombre de fonctionnaires ou le positionnement face à Éric Zemmour. Les différences relèvent davantage de l'incarnation que des programmes concède un cacique du parti. Mais la droite parviendra-t-elle à ne pas se déchirer avec 4 débats d'ici au congrès de désignation du candidat début décembre. Le projecteur sera braqué sur nous pendant 1 mois. Il ne faut surtout pas gâcher cette opportunité, prévient le porte-parole d'un candidat.
Anne Souhaitemont, l'Église de France responsable, comment va-t-elle assumer concrètement maintenant face à plus de 300 000 victimes d'abus sexuels depuis les années 50 ? Réponse des évêques à Lourdes ce matin qui doivent annoncer comment l'institution compte indemniser ceux qui en feront la demande.
COP 26, deuxième semaine, Florence.
Avec des questions cruciales à trancher, encadrer les marchés mondiaux des émissions de carbone ou tenir les promesses faites aux pays pauvres, c'est-à-dire leur donner de l'argent pour lutter contre le changement climatique, sur lesquels ils ont peu d'influence alors qu'ils en subissent les premiers les conséquences. Exemple, au Somaliland, petit état autoproclamé de la Corne de l'Afrique, l'ONG CARE y intervient parce que la famine n'est pas loin, le pays s'assèche et les criquets ravagent tout sur leur passage, de plus en plus fréquent. Reportage sur place, signé Nathanaël Charbonnier.
Ces villageois de la commune de Suksad, en plein cœur du Somaliland, le racontent tous. Une attaque de criquets dans un champ, cela fait peur.
Donc quand ils arrivent, ils mangent tout, toute la nourriture pour les gens du village. C'est comme un nuage d'insectes. Tellement il y a d'insectes, ça cache le soleil et on ne peut plus voir la lumière. We can't see the light any longer.
Dans la salle d'à côté, c'est maintenant au tour des femmes de raconter qu'avec les invasions de criquets à répétition et le manque d'eau, plus personne ne mange à sa faim.
Tout cela nous rend plus pauvres. La majorité des gens de ce village ne mangent qu'une seule fois par jour. Soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, soit le dîner.
Autre conséquence liée à ces crises qui s'enchaînent, les familles n'ont plus les moyens d'envoyer tous leurs enfants, et notamment les petites filles, à l'école.
On n'a plus assez d'argent pour payer les frais de scolarité, 10 dollars par mois environ par élève. Et quand il faut choisir, ce sont les petites filles qui sont privées en priorité d'éducation. Elles se retrouvent dans les champs à travailler avec leur mère.
Les petites filles et les femmes pénalisées encore et toujours, car le manque d'eau les oblige également à marcher de plus en plus loin pour trouver de l'eau potable. Au Somaliland, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
En Italie, plus de 800 migrants ont débarqué sur le port sicilien de Trapani hier, secourus en Méditerranée par le navire d'une ONG allemande. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge et placés en quarantaine. Et c'est pour alerter sur la condition de ces candidats à l'exil chez nous, dans le nord de la France, qu'un couple a cessé de s'alimenter à Calais. Anaïs Vogel et Ludovic Holbein en sont à leur quatrième semaine de grève de la faim, affaiblie mais déterminée. Faustine Calmel.
On croise Ludovic Holbein sur le parvis de l'église, cerné, fatigué, mais debout. À l'intérieur, Anaïs Vogel est allongée, recouverte de plusieurs pulls et couvertures, des bouteilles en verre au pied du lit.
On ne s'alimente plus, mais on prend de l'eau salée pour ne pas se déminéraliser et déshydrater. Et après, c'est plutôt de la tisane, en fait.
Et il y a la nourriture aussi, je ne sais pas comment on pourra dire, mais c'est hier, par exemple, une personne est venue de Paris pour un moment musical de harpe, et j'ai trouvé très beau parce qu'elle disait que ce qu'elle pouvait nous apporter, c'était forcément pas de la nourriture habituelle, mais de la nourriture spirituelle et un soutien, quoi. Et ça, ça nous nourrit beaucoup aussi.
Le corps, pourtant, souffre. Après 3 semaines de jeûne, des séquelles sont à envisager, ont expliqué les médecins qui leur rendent visite matin et soir.
Moi, je pensais que ça serait bien pire. Et en fait, on arrive encore à se déplacer, on arrive encore à se lever, on peut discuter, enfin tout ça. Ça va, même si on sent évidemment que l'énergie baisse.
Avant cette grève de la faim, j'étais plus sur le terrain et cette violence, elle était psychologique. Ça me blessait vraiment mentalement et psychologiquement. Aujourd'hui, cette violence, elle est un peu reportée sur mon corps. Finalement, entre les deux, il n'y a pas de grande différence.
Le couple exige toujours la fin des expulsions durant la trêve hivernale et l'arrêt de la confiscation des affaires personnelles des exilés lors des interventions policières.
Faustine Calmel, et nous parlions à l'instant de ce policier blessé à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes. Un ministre, sans doute Gérald Darmanin, annonce à l'instant sur Twitter que la piste terroriste est envisagée. Gérald Darmanin qui a prévu de se rendre sur place immédiatement. Des trains annulés et de la attente sur les quais. C'est une grève dans les TER aujourd'hui et demain. À l'appel de la CGT Sud et FO, plusieurs réseaux touchés. Les cheminots dénoncent des sous-effectifs et des conditions de travail dégradées. Quand des joueuses se mettent en grève pour dénoncer leurs conditions de travail, c'est baroque et c'est ce qui s'est passé hier à Lens Bayonne, club d'élite 1 de rugby. Les joueuses ont déclaré forfait Stéphane Garcia avant un match de Coupe de France contre le Stade Toulousain.
C'est d'abord le cri de joueuse à bout, Laura Delas, l'arrière.
On évente tous les week-ends, je crois que chaque week-end ou chaque semaine, il y a une fille qui nous annonce qu'elle arrête tellement qu'elle est dégoûtée. Et à force, le groupe s'essouffle. On est fatigué mentalement, fatigué physiquement. On vient pour jouer au rugby, au final on joue plus au rugby, on se prend plus la tête qu'autre chose.
Une équipe qui, semaine après semaine, se heurte aux autres clubs d'élite 1 féminine qui, eux, ont pris le virage du professionnalisme, pas la S Bayonne.
Elles ont beaucoup plus de moyens, des choses simples, des GPS, des retours pointilleux. Elles ont tout pour réussir, beaucoup plus d'entraînement, des séances de muscu, d'infrastructure. Nous, on a le maillot, on a le ballon et notre amour propre, c'est tout ce qu'on a en fait.
Et la troisième ligne, Mélissa Nouni d'ajouter.
Le problème qu'il y a eu, c'est que quand on a demandé ces choses-là, on est passé pour des princesses capricieuses en fait.
Pauline Bourdon, partie à Toulouse, ou encore Maïka Brust, Carla Arbès, Lou Baguette, une vague de départ, une hémorragie que les Neshkak veulent désormais stopper.
Ça fait plusieurs fois qu'on alerte le club sur le fait de tous les ans perdre un peu plus de monde, perdre des joueuses importantes, des joueuses de haut niveau. Et en fait, on a l'impression que nos paroles sont vaines.
À un moment donné, il faut écouter les joueuses, ou alors on est honnête et on joue pas en élite 1. On mérite pas d'être en élite 1 avec les moyens qu'on a.
On sentait que la crise couvait vraiment depuis plusieurs mois à l'ASB. Avec cette prise de parole, les filles espèrent du changement rapidement.
Voilà la révolte des joueuses de l'AS Bayonne avec Stéphane Garcia de France Bleu Pays Basque. Et un premier abandon sur la Transat Jacques Vabre, l'IMOCA de David Baudard et Louis Burton a dématé dans la nuit. Les deux skippers sont sains et saufs, mais l'aventure s'arrête là pour eux 10 heures seulement après le départ de la course. Enfin, on connaît davantage ces films que ces pièces. Eh bien, on a tort. Christophe Honoré fait l'événement au Théâtre des Célestins de Lyon. Sa dernière création s'appelle Le Ciel de Nantes, œuvre personnelle dans laquelle le cinéaste met en scène sa famille maternelle, une plongée dans la France des années 80 avec pour la première fois sur les planches l'actrice Chiara Mastroianni, saga familiale vue pour nous par Stéphane Capron.
Cette histoire, Christophe Honoré l'a écrite il y a 20 ans pour en faire un film qu'il n'a jamais pu tourner. Il y révèle des choses intimes sur sa grand-mère, sur sa mère. Il lui a été plus facile de les raconter sur une scène de théâtre.
Étrangement, on pense toujours que le théâtre est plutôt du côté de l'artifice, alors que non, il y a beaucoup plus de réel et de vrai finalement dans le théâtre qu'au cinéma. Comme si le cinéma, en fait, me mettait dans une position, effectivement, où j'avais l'impression de profaner quelque chose. Alors que là, au théâtre, il y a une autre vérité qui est possible et ça laisse le champ... et l'éventualité que tout arrive.
Pour incarner sa tante, Claudie, Christophe Honoré a choisi Chiara Mastroianni qui fait ses débuts au théâtre.
J'en avais marre de toujours céder à ma propre peur et je me suis dit c'est quand même bête de se priver de ça. En plus, j'avais très envie de retravailler avec Christophe. J'avais vu les idoles que j'ai vraiment adorées. Je savais que c'était la même troupe. J'ai beaucoup de chance aussi que ce soit avec ces partenaires-là qui ont été très accueillants parce que dans le fond, moi, je suis arrivée avec zéro expérience. Donc c'est vrai que j'imagine que pour un groupe qui a déjà plus l'habitude, qui a fait beaucoup de théâtre, etc., c'est un peu le boulet qui débarque.
Chiara Mastroianni est bouleversante comme toute la troupe dans cette saga familiale où chacun pourra se reconnaître. C'est là tout le talent de Christophe Honoré dont on apprend qu'il adorait danser avec sa grand-mère sur ce titre de Sheila.
Le ciel de Nantes de Christophe Honoré à voir jusqu'au 13 novembre au Théâtre des Célestins à Lyon. Et puis ensuite, il y aura une tournée dans toute la France.
Dans toute la France. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, pas mal de brouillard et de grisaille ce matin.
Oui, classique hein, en cette saison avec ces conditions anticycloniques. Prudence donc des Pays de la Loire à la Normandie au centre, jusqu'à l'Île-de-France, à la Champagne, à l'Alsace, aux Ardennes, mais aussi dans le sud-ouest du Lot, à la Corrèze et en Bretagne. Le ciel est déjà nuageux avec une perturbation qui tente de rentrer. Ailleurs, le temps restera calme ce matin et sec, mais pas forcément ensoleillé, excepté autour du Golfe du Lion jusqu'aux Alpes où le vent va souffler à 100 km/h et va chasser les nuages, mais en Corse, l'instabilité va donner dès ce matin un temps pluvieux. Il gèle dans la Marne, moins 4 à Mourmelon. Vous avez un petit degré à Alençon, 3 à Lille, 5 à Cognac, 6 à Paris, 9 à Quimper et 13 à Bastia.
Et quelques éclaircies, Marie-Pierre, cet après-midi.
Oui, avec cette poussée anticyclonique, le ciel va hésiter entre passages nuageux et quelques apparitions du soleil sur de nombreuses régions. En revanche, en Bretagne, la perturbation donnera quelques gouttes et dans le sud, le Mistral et la Tramontane dégageront le ciel autour du Golfe du Lion jusqu'aux Alpes, mais le temps va rester instable en Corse, avec ces averses orageuses qui remontent de Sardaigne et les températures seront de saison. 5 à Aumont-sur-Aubrac, 9 à Verdun et Clermont-Ferrand, vous aurez 10 à Strasbourg, 11 à Bourges, 12 à Lyon, 13 à Paris et Bayonne, 14 à Nantes, comme à Avignon, 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 8h18, géopolitique.